Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Samedi 9 mai, bonjour à tous, 8e semaine de confinement en France et 8e édition spéciale d'une semaine d'actualité. Je dédie cette émission à un de nos auditeurs, il s'appelle Shindano, il est congolais. Il est réfugié dans un camp du HCR en Namibie avec son épouse et ses 3 enfants. Il nous a envoyé cette semaine un long message sur ces semaines de confinement durant lesquelles il a pu, écrit-il, jardiner, parler philosophie, jouer au Scrabble et s'occuper des leçons de ses enfants. Leur révision était à l'ordre du jour. Je salue Shindano et sa famille. Confinement, c'est encore le mot-clé, mais il cède peu à peu la place à un autre mot, déconfinement, puisque l'actualité, c'est la sortie de cette forme d'enfermement et le tout début de la reprise de l'activité dans le monde. Nous le constaterons au fil de nos escales. Nous allons être cette semaine en compagnie d'un des grands intellectuels français, le philosophe et historien Marcel Gaucher. Une semaine d'actualité donc, un magazine que vous pouvez retrouver, podcasté sur le site de la radio, www.rfi.fr et sur votre moteur de recherche préféré. Vous pouvez vous y abonner pour le recevoir chaque semaine.
RFI.
Avant de vous écouter, Marcel Gaucher, je vous propose de nous rendre à Rome, la ville que l'on dit éternelle. Rome est de nouveau dans Rome, en quelque sorte, quand la vie y reprend. Écoutez cette correspondance d'Anne Lenir, mardi.
Rome se réveille, piano piano, doucement, avec encore en toile de fond la symphonie des oiseaux et de nouveau le clic-clac des talons aiguilles sur les pavés. Les Romaines les portent avec élégance. L'envie d'un espresso est irrésistible. L'espresso au comptoir fait partie des grandes traditions. Après 2 mois de privation, enfin un bar rouvert à 2 pas du Sénat. Il est interdit d'y entrer. L'astuce, ici, c'est une fenêtre avec un large rebord extérieur transformé en kiosque-bar. Clara et Roberto sont les premiers clients.
Ça fait du bien de pouvoir prendre un café et d'aider ceux qui ont été sans travail. C'est aussi le retour à la convivialité. On échange 2 mots à distance.
Ah, pendant 2 mois, pas de petit déjeuner au bar. Maintenant, c'est possible. C'est un bon signe.
Évidemment, aucun contact physique entre serveur et client. On commande dans la rue. Le café, servi dans un mini gobelet en plastique, est entouré d'un emballage en carton sur lequel est inscrit « Coffee to go ». C'est parti pour une nouvelle journée de renaissance.
Bonjour, Marcel Gaucher.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et historien, directeur d'études émérite à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Le Débat, l'une des principales revues intellectuelles françaises que vous avez cofondée. Votre dernier livre en date s'intitule « Robespierre, l'homme qui nous divise le plus ». Il est publié chez Gallimard, nous en avons parlé dans un numéro d'idées sur cette antenne. Vous venez d'entendre ce reportage sur Rome, la reprise de l'activité à Rome. Rome, ville ouverte à nouveau, pour paraphraser le titre d'un film de Roberto Rossellini.
Eh bien, c'est une annonce importante pour les Européens qui vont peu à peu faire la même expérience de chercher une vie normale en essayant de se protéger au maximum, ce qui n'est pas tout à fait simple. On le voit avec les embarras du gouvernement français pour définir des règles à peu près applicables dans le cadre de ce retour à la normale qui n'en est pas un. Il faut appeler évidemment les choses par leur nom.
Marcel Gaucher, comment avez-vous vécu ces 2 mois quasiment de confinement ?
Écoutez, je fais partie des privilégiés pour qui ça n'était pas un vrai problème, n'était que bien entendu la privation de vie sociale et d'activité physique extérieure est un peu douloureuse, mais ça m'a permis de me consacrer encore plus à mon travail habituel, en fait. Donc, je n'étais pas en peine d'occupation. J'ai passé l'âge d'avoir des enfants moins élevé, donc je n'avais pas ce problème qui peut être très grand pour les jeunes parents. Je n'avais pas de soucis de santé particuliers, donc j'ai pu en fait vivre comme un moine, si j'ose dire, un bénédictin du XIIe siècle dans mon bureau à travailler du matin au soir et à me distraire avec quelques conversations avec mes amis à distance.
Marcel Gauchet, on a compris avec cette épidémie, cette pandémie, ce que peut être un imprévu dans l'histoire.
C'est plus qu'un imprévu, c'est un événement avec un grand E, c'est-à-dire ce qui vous tombe dessus, que personne n'avait vu venir, là pour le coup. Bon, évidemment, il y a des grands événements, exemple les guerres. Mais en général, on les voit venir, elles ne se déclarent pas du jour au lendemain, elles relèvent des scénarios sur lesquels on a travaillé, qu'on a préparé. Là, justement, nous avons été pris complètement au dépourvu et, en plus de cet imprévu du déclenchement, cette crise sanitaire nous a révélé quelque chose de nous-mêmes, de nos valeurs, de nos principes, que nous ignorions, et cela à une échelle planétaire. C'est quelque chose d'unique, je crois, dans les annales de l'histoire humaine, qui est pourtant assez riche en événements intéressants.
À quelle valeur pensez-vous, par exemple, Marcel Gauchet ?
A priori, tout le monde, parmi les observateurs, mais ça, il n'y avait pas besoin d'être un grand clerc pour le comprendre, nous étions convaincus que la valeur dominante par excellence dans notre monde, c'était l'économie. Que c'était la chose à laquelle il fallait consacrer tous les efforts, tous les soins, parce que c'est de là que dépendait finalement le sort de tous et que nous n'avions pas mieux à faire que de nous consacrer à cet accroissement de la richesse collective et des moyens techniques dont nous disposons. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que finalement, eh bien non, pas du tout. La vraie valeur que nous cultivions était sous ce culte de l'économie. C'était en fin de compte, et c'est vrai à l'échelle planétaire, c'est ça qui est le phénomène étonnant, c'était la préservation des vies des gens les plus vulnérables, finalement. Parce que, autre chose très importante dans cette épidémie, c'est qu'on s'est aperçu que, en dépit du fait qu'elle ne touchait qu'un petit nombre, en réalité, en termes de mortalité ou même de graves symptômes, elle exigeait de tous le concours à la protection de ce petit nombre. La loi de l'histoire humaine, au fond, a toujours été, je crois que ça reste vrai, c'est resté vrai jusque tout près de nous, c'était on est prêt à sacrifier le petit nombre pour le salut du grand nombre. Eh bien, nous avons fait l'inverse. Nous avons sacrifié le salut, la capacité de soigner le petit nombre. Pour cela, nous avons sacrifié le grand nombre. C'est quelque chose d'exceptionnel, encore une fois, dans l'histoire humaine. Ce sacrifice étant relatif. Avant, le sacrifice du petit nombre, c'était les envoyer au massacre dans des guerres, par exemple, pas seulement. Aujourd'hui, on a demandé simplement au grand nombre de sacrifier sa vie sociale, ses activités, et on a demandé à la loi du profit, qui est celle de l'économie, de se mettre en veilleuse pendant le temps où il était possible de se dévouer pour sauver le petit nombre.
Une semaine d'actualité.
Déconfinement, c'est le mot de la semaine, Marcel Gauchet. En Chine, par exemple, là où tout a commencé, il se précise avec la rentrée des classes dans la province d'où est parti le virus, la province du Roubaix. Reportage de Stéphane Lagarde.
L'uniforme des lycéens chinois, survêtements et sacs à dos, des visages concentrés, mais aussi quelques sourires sont perceptibles derrière les masques pour cette rentrée tant attendue. On estime généralement qu'une épidémie est éradiquée après 20 jours sans cas de contamination. On voit là déjà un mois que le Roubaix n'a pas signalé de nouvelles infections. Le confinement est fini, mais oui, les professeurs sont là, en chair et en os, mais on ne sort pas comme ça d'un tel traumatisme. Après plus de 2 mois de confinement, ce n'est pas encore la vie d'avant. Bien sûr, il y a des caméras thermiques installées à l'entrée des 121 lycées concernés par cette ouverture. Bien sûr aussi, les règles de distanciation sociale sont appliquées. Si seules les classes de terminale reprennent, c'est pour finir de préparer le Gaokao. Le bac chinois, véritable sésame pour les études supérieures, a été repoussé d'un mois en raison du coronavirus, mais c'est aussi pour espacer les pupitres, faute de pouvoir repousser les murs. Aucune date n'a pour l'instant été fournie aux autres élèves. Une rentrée échelonnée, donc, liée au 1 mètre de distance minimum requis. Les classes chinoises de 50 à 60 élèves sont passés à 30.
Reprise aussi en Espagne, un des pays les plus durement touchés par le virus. Reportage mardi de notre envoyée spéciale Véronique Guémard.
Il est 19h30 dans un quartier résidentiel du centre de Madrid. Les rues sont bien vides. Quelques passants, des personnes âgées qui ont le droit de sortir à certaines heures, dont Paloma, 70 ans, venue faire ses courses. Elle n'est pas très rassurée.
Les gens sortent à n'importe quelle heure, ils ne respectent pas les distances. Je vais être très prudente. Tous les mois, je dois aller à l'hôpital et j'ai très peur quand je prends les transports.
Dali, lui, n'a pas le choix. Il fait partie du personnel de ménage au Hilton, encore fermé aux clients. Cet Équatorien de 38 ans est en Espagne depuis de nombreuses années. Il vit dans un quartier populaire au sud de Madrid, très touché par la pandémie.
On travaille ici au Hilton. C'est fermé, mais on doit faire le ménage pour tout préparer quand ça rouvrira. On habite à Puente Vallecca. Il faut bien nourrir notre famille, nos enfants. On doit le faire pour eux.
À côté, le commissariat du quartier, deux policiers font une pause. Leur rôle, faire respecter les règles du confinement, plus facile dans ce quartier cossu.
Dans ces quartiers chics de Madrid, les gens respectent les règles, mais dans les quartiers sud, c'est plus compliqué. Au niveau professionnel, on fait notre métier, mais au niveau personnel, c'est dur de devoir mettre des amendes à des gens qui n'ont pas de ressources.
À 20h, des habitants sortent sur leur balcon pour applaudir les personnels de santé qui se sentent délaissés.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Marcel Gaucher. On ne va plus regarder la Chine avec le même œil qu'avant la crise, Marcel Gaucher.
Sûrement. Encore que pour le moment, nous sommes très heureux d'accueillir les masques qu'ils peuvent nous livrer enfin et dont nous manquions cruellement. Donc ça fait taire beaucoup les ressentiments qu'on peut exprimer à l'égard de la manière dont ils ont couvert, de manière très peu loyale, il faut le dire, à l'égard de leurs partenaires étrangers, les débuts de la pandémie. Puisque, en effet, mais qui l'ignorait en réalité. Nous n'avons pas affaire à un régime qui cultive les vertus de la transparence. Cela m'a fait parler d'ailleurs au départ d'un Tchernobyl sanitaire, au sens où, comme à Tchernobyl, tous ces régimes ont pour réflexe face à un événement de ce genre de camoufler la vérité. Il finit toujours aussi par éclater, ce qui entraîne des conséquences. Mais bien entendu que maintenant, on va regarder peut-être avec plus d'attention la nature de ce régime, mais les conséquences principales viendront sans doute du fait que la dévolution totale de la production industrielle à la Chine vers laquelle nous étions embarqués dans nos sociétés. On s'en est aperçu avec la France, ou même des médicaments qui paraissent insignifiants, comme le Doliprane, avaient leur principe actif fabriqué en Chine. Ça paraît tout à fait extravagant. Je pense que de ce côté-là, il va y avoir cet événement va marquer une sorte de redistribution des cartes économiques et industrielles, en particulier dans le monde occidental. Mais je pense aussi qu'ailleurs dans le monde, dans des pays du Sud en particulier, qui ont la tentation de s'inféoder à un protecteur commode parce qu'il est assez libéral sur le plan financier, parce qu'il ne pose pas beaucoup de questions sur le plan politique, cette tendance-là va au moins, sinon s'infléchir, en tout cas devenir un objet de réflexion chez tous les gouvernants. Oui, l'époque heureuse de la Chine en train de revenir au centre du monde sous un masque finalement très praticable, puisque nous avions des liens commerciaux avec eux, quelque chose d'autre va se nouer que nous ne savons pas encore très bien comment.
Il y a quelque chose de très frappant, Marcel Gaucher, qui ne vous a pas échappé avec cette crise depuis deux mois, c'est le retour des frontières.
plus que des frontières. Si ce n'était que les frontières, si je puis dire, ce serait simplement un artefact technique pour protéger chacun sa population. Je pense qu'il y a une reconsidération de l'organisation politique du monde. C'est autant d'un côté, on voit bien qu'il y a une nécessité de coopération entre les différents États-nations, autant en même temps, cette structure de l'État-nation est revenue en force comme la structure à la fois protectrice, hein, avec les moyens des États qui sont mobilisés au service de leur population, mais aussi au service d'une inventivité collective qui retrouve ses droits face à un problème qu'on ne sait pas très bien traiter, avec ceux qui s'en sortent bien et ceux qui s'en sortent moins bien. Nous sommes dans le moment, c'est très remarquable, de la comparaison dans tous les sens des solutions nationales qui ont été adoptées par les uns et par les autres.
Oui, parce que le virus a mis en évidence plein de qualités et surtout plein de défauts de chacun de ces États.
C'est assez normal. On a au fond quelque chose de compétitif, hein. Quelles sont les bonnes solutions, quelles sont les mauvaises, quelles sont les bonnes attitudes, quelles sont les moins bonnes. Et je crois que est entré quelque chose qui reflète bien la nouvelle structure du monde, qui n'est pas une structure uniformisatrice, contrairement à ce qu'on aurait pu penser en fonction des lois de la globalisation. Oui, c'est les mêmes règles de fond partout, mais chacun des pays les interprète à sa manière et avec évidemment des comparaisons qui sont désavantageuses ou avantageuses pour les uns et les autres.
Marcel Gauchet, il est des pays où l'épidémie fait encore plus de ravages qu'ailleurs, au Brésil par exemple, au cœur de l'Amazonie. Le maire de Manaus a lancé cette semaine un cri pour alerter le monde sur les conséquences du virus sur les peuples autochtones, les peuples locaux. Correspondance mercredi de Martin Bernard.
Manaus est la capitale de l'état d'Amazonas, au cœur de la forêt tropicale. Elle a durement été touchée par le coronavirus. Mal équipés, les hôpitaux de la ville ont vite été débordés. Au cimetière, il a fallu creuser des fosses communes. Le maire, Arthur Virgilio, a lui-même fondu en larmes devant l'ampleur de la catastrophe. Il n'a pas hésité à admettre que les autorités avaient échoué devant l'ampleur du défi humanitaire, avant de lancer un appel à l'aide internationale à 21 chefs d'État et de gouvernement. Un véritable SOS Manaus pour lutter contre le coronavirus.
Nous avons besoin d'aide internationale pour sauver plus de vies. Nous sommes une région stratégique pour le monde.
Le maire de Manaus est un défenseur du confinement, mais il accuse le président Jair Bolsonaro d'avoir incité les Brésiliens à ne pas respecter la quarantaine, ce qui aurait contribué à l'aggravation de la crise.
Il est beaucoup responsable et il fait une vraie campagne presque électorale en stimulant les personnes à sortir pour les rues. Je considère qu'il est responsable par beaucoup des choses mauvaises qui arrivent au Brésil aujourd'hui.
Manaus comptait mercredi 530 morts et plus de 5500 cas de coronavirus, selon un bilan officiel qui augmente rapidement.
Cette pandémie a finalement conduit l'Inde à rapatrier ses ressortissants et pas seulement ceux qui vivent et travaillent dans le golfe Persique. À New Delhi, correspondance jeudi de Sébastien Farsi.
64 vols sont prévus sur 7 jours pour rapatrier jusqu'à 14 800 Indiens depuis les États-Unis, l'Angleterre, le golfe, Singapour ou les Philippines. Et deux navires de guerre pourront ramener 2000 autres citoyens bloqués aux Maldives. Ce rapatriement est payant, entre 150 et 1200 euros selon le pays. Il est réservé aux personnes en détresse et doit se faire en évitant toute nouvelle contagion, comme l'explique Hardeep Puri, le ministre de l'aviation civile, lors d'un entretien télévisé.
Personne ne dira que cette opération est sans risque, mais nous avons pris des mesures pour le minimiser. Nous avons retardé les vols pour avoir le temps de tester tout l'équipage d'Air India qui va voler. Nous prendrons aussi la température des passagers avant le vol, mais il y a toujours un risque qu'une personne infectée ne présente pas de symptômes.
À son arrivée, chaque passager sera placé en quarantaine forcée et payante de 2 semaines, ce qui pourrait en fait en dissuader beaucoup de rentrer. Les autorités indiennes prévoient jusqu'à présent de rapatrier plus de 200 000 personnes.
Suite de ce numéro spécial d'une semaine d'actualité en compagnie de Marcel Gaucher aujourd'hui. Marcel Gaucher, vous êtes un penseur de la démocratie. Une grande partie de votre œuvre est consacrée à cette émergence de la démocratie, à ce phénomène de la démocratie. Que pensez-vous des manifestations, par exemple, qui ont eu lieu aux États-Unis, temple, entre guillemets, de la démocratie, manifestations durant lesquelles les opposants au confinement se sont fait entendre, parfois même assez vivement?
La démocratie est un régime compliqué parce qu'il a besoin d'articuler deux exigences qui ne vont pas naturellement ensemble, même si elles sont indissolubles, indissolublement liées. La liberté individuelle d'un côté et la discipline collective de l'autre. La liberté individuelle ne prenant son sens que dans un cadre où il est possible de définir en commun des lois valables pour tous, qui sont contraignantes pour tous, y compris pour ceux qui s'y sont opposés au départ. On retrouve dans chacune de ces situations de crise la tension constitutive de ce régime. Au nom de la liberté individuelle, qu'on estime lésée, on peut récuser toutes les règles de la discipline collective, quand bien même elles sont adoptées de la manière la plus régulière. Mais il est vrai aussi que la définition de ces règles collectives, dans un cas comme celui-là, en fonction aussi de l'imprévu de la situation, est très difficile à faire. Et il y a, dans tous nos régimes démocratiques, des contestations qui ne prennent pas forcément cette forme radicale de l'indiscipline revendiquée, mais qui peuvent aller néanmoins assez loin. Il y a une contestation de la façon dont les pouvoirs en place définissent ce qui paraît s'imposer comme règle face à la pandémie. C'est un cas qui révèle la nature de la démocratie, qui n'est pas le régime idéal qui marcherait harmonieusement par lui-même, mais le régime le plus difficile à faire fonctionner qui ait jamais paru dans l'histoire humaine. C'est très difficile de demander aux gens de participer à la contrainte qui s'applique à eux. Mais c'est ça la génie de la démocratie.
Dans notre voyage dans le monde, parlons un instant de l'Europe, Marcel Gaucher, l'Europe en tant qu'Union européenne, qui a été, elle aussi, durement mise à l'épreuve.
Et c'est normal. La construction européenne est une drôle de chose. On s'en aperçoit de plus en plus au fur et à mesure qu'elle entre dans les faits. Elle est une union par des règles. Autrement dit, elle est en réalité une sorte de système administratif. Un système administratif, ce n'est pas un système gouvernemental. Un système de règles, par nature, est très mal adapté à l'imprévu des événements. Ce pourquoi toutes les situations de crise qui déstabilisent la marche normale des institutions, on l'avait vu en 2008-2009 avec la crise financière, met à mal le fonctionnement des institutions européennes. Elles ne sont pas faites pour ça. Alors, de deux choses, on en tire la conclusion qu'elles ne sont pas adaptées sur le fond à ce que devrait être une organisation politique qui est justement capable de faire face à l'imprévu, ou bien on essaye de réaménager ces règles pour leur donner une souplesse en mesure de mieux répondre à l'événement.
Et que va-t-il se passer, à votre avis, face à cette alternative?
Alors, la vraie question va se poser au niveau de la crise économique qui va suivre la crise sanitaire. Il y a eu l'arrêt de l'économie pendant plusieurs semaines, va se payer très cher en termes de pertes économiques. C'est parfaitement normal. Et la question va être, pour l'Union européenne, on le voit déjà très bien, celle de la solidarité entre ses membres et de la capacité de définir des politiques efficaces pour remonter la pente économique dans les meilleures conditions, avec ce que ça va supposer de transfert selon des zones inégalement touchées. Et là, c'est la grande question. En fait, la construction européenne n'a pas vraiment installé dans les esprits des peuples européens un esprit de partage entre eux. Ils s'entendent, ils s'accordent et la paix profonde règne en Europe. Mais en même temps, l'esprit de mutualisation, lui, n'est pas au rendez-vous. Et ça va être une dure épreuve parce que dans cette crise économique, c'est le problème numéro un qui va se poser très vite.
Sept jours en France.
Arrêtons-nous en effet en France. Maintenant, Marcel Le Gaucher, pas un Français n'ignore que lundi sera le jour du début progressif du déconfinement, même si le plan du gouvernement à ce sujet a été rejeté par le Sénat. Un désaveu politique pour Édouard Philippe, le Premier ministre, Anthony Lattier, le soir du vote.
L'Union nationale de la classe politique française n'est plus qu'une lointaine chimère du début du confinement. Désormais, même les sénateurs, critiques mais souvent bienveillants, ne font plus confiance au gouvernement pour mener à bien ce déconfinement. « Nous ne pouvons plus vous croire sur parole », a lancé le chef de la droite sénatoriale Bruno Retailleau. Pour lui, l'exécutif a pris trop de retard dans la distribution des masques, le développement des tests ou l'isolement des malades. Pas convaincu non plus, le sénateur Patrick Kanner. Il appelle le gouvernement à avoir le courage de reculer la date du déconfinement si la sécurité des Français ne peut pas être assurée le 11 mai dans les écoles, au travail ou dans les transports. Le 11 mai, c'est trop tôt, disent aussi ces dernières heures des maires, des enseignants ou des transporteurs. Les poches de résistance se multiplient et même si ce vote au Sénat n'est que consultatif, il ne bloque pas la mise en œuvre du plan de déconfinement. Le Premier ministre Édouard Philippe est ce soir encore plus sous pression.
Édouard Philippe qui a confirmé que le déconfinement commencerait le 11 mai. Il l'a fait jeudi. Avant lundi, les Français tentent, en rencontrant de grandes difficultés, tentent de se procurer des masques dont le port sera obligatoire dans les transports en commun. Reportage dans un magasin de Paris signé Simon Rosé.
Pas de masque dans le cabas de course de cette dame. Et pour cause, ce magasin en a bien à vendre, mais de façon limitée. Monsieur Benavette, le responsable.
Chaque jour, on a le droit de vendre 3 paquets de masques, pas plus. C'est 3 clients. Il faut laisser pour les autres, on les partage.
29,54 euros les 50 masques chirurgicaux à retirer à la caisse. Les 3 boîtes du jour ont déjà trouvé acquéreur, des clients qui n'ont pas besoin de carte de fidélité comme c'est parfois le cas, mais qui ont tout de même dû s'inscrire sur internet, de quoi en dissuader certains.
Je trouve ça un petit peu bizarre de la part d'une grande surface de faire un tri comme ça en sachant que c'est quand même quelque chose d'élémentaire on va dire pour sortir. Ça va pas être possible ici, mais étant donné que la date de déconfinement elle approche, oui, je pense que je vais passer dans ma pharmacie. J'ai hésité tout à l'heure, mais là, je pense que c'est évident, il faut que j'y passe.
Les stocks sont limités, assure la direction, qui veut en plus éviter la cohue. Et elle promet, tous les habitués de ce magasin pourront être équipés en temps et en heure.
De leur côté, beaucoup de commerçants se préparent à accueillir à nouveau les clients. Écoutez ce reportage de David de Bachet dans les Landes à Hendaye, jeudi.
Vert, blanc, gris, noir.
Elle coud des vêtements, fait des retouches, mais depuis le début du confinement, elle ne croise ses rares clients que sur le pas de sa porte. Lundi, Nathalie Barian aura le droit de rouvrir sa boutique à Hendaye, mais elle ne le fera pas.
Moi, j'ai une petite boutique, donc moi, ça me paraît risqué. En vue de tout ce que j'entends pour certaines personnes, dans leur tête, déconfinement, on sort, ça veut dire qu'il n'y a plus de risque, il n'y a plus de virus.
En même temps, vous êtes commerçante, j'imagine que vous auriez besoin de reprendre votre activité de manière normale.
Oui, bien sûr. Si j'avais une boutique plus grande pour recevoir les gens sans risque, oui, bien sûr. Mais je ne peux pas prendre de risque non plus pour la population, quoi.
À quelques kilomètres, dans la ville de Saint-Jean-de-Luz, Marilyn Miura vend des tissus, draps, rideaux et depuis quelques semaines, des masques. Elle se prépare activement à recevoir à nouveau ses clients, mais pas n'importe comment.
Je rouvre la boutique, mais en ouvrant un par un, puisque j'ai de la chance d'avoir un sas de 9 mètres carrés.
Ça veut dire que vous vous préparez à filtrer les clients, à les faire...
Oui, je leur présenterai à travers la porte vitrée les modèles que nous avons. Moi et mes collaboratrices, nous aurons un masque, des gants, du gel hydroalcoolique à disposition à l'entrée.
Les bars et restaurants des rues voisines, eux, devront attendre la fin du mois pour savoir quand ils auront le droit de rouvrir leurs portes.
Marcel Gaucher, il y a 3 ans, Emmanuel Macron était élu à la présidence de la République, on s'en souvient. Et depuis 2017, son mandat a été pour le moins tourmenté. Valérie Gasse.
Pour Emmanuel Macron, c'est un anniversaire sous le signe du Covid-19, un virus qui l'a obligé à figer la France dans le confinement depuis 2 mois. Une décision radicale pour faire face à un danger inédit. Les gilets jaunes avaient forcé le chef de l'État à s'adapter. Il avait dit alors « plus rien ne sera comme avant ». Le coronavirus va le contraindre à essayer de se transformer. Sachons-nous réinventer, moi le premier, c'est la promesse qu'il a faite aux Français le 13 avril, après avoir dit qu'il était prêt à prendre des décisions de rupture et en invitant à penser avec son quoi qu'il en coûte que le virus avait changé ses priorités, peut-être jusqu'à accepter de renoncer à la réforme des retraites, tant contestée avant l'épidémie pour préserver la concorde nationale. En parlant de solidarité, de souveraineté, le chef de l'État a esquissé les contours d'un nouveau modèle à construire après l'étape du déconfinement dont l'organisation a fait apparaître l'existence de tensions avec Édouard Philippe, un Premier ministre aujourd'hui plus apprécié que lui selon les sondages, une situation qui après 3 ans et une épidémie a fait ressurgir l'hypothèse que le moment était peut-être venu pour Emmanuel Macron de décider si le chef du gouvernement d'avant le virus pouvait être celui d'après.
Marcel Gauchet, cette phrase est devenue célèbre, le deviendra peut-être. Sachons-nous réinventer, moi le premier, disait donc Emmanuel Macron en avril dernier. Vous y croyez, vous ?
Écoutez, ce genre de proposition ne mange pas de pain, comme on dit dans le français populaire. On peut toujours, quand on ne précise pas en quoi va consister la réinvention, on peut s'autoriser de vastes perspectives qui n'engagent que ceux qui spéculent à son sujet. Je n'y crois pas vraiment parce que les contraintes sont trop fortes. Je crois qu'on va avoir en effet une période considérable, d'ailleurs dans le temps probablement, au moins plusieurs mois, à supposer que tout se passe bien dans ce déconfinement et qu'on retrouve une vie normale, on va avoir une période d'adaptation considérable, mais qui va être placée sous le signe d'une telle contrainte économique que les voies de la réinvention à court terme sont limitées. Alors après, au-delà peut-être, en effet, que un nouvel agenda politique va non pas tant être réinventé, mais s'imposer par la force de ce qu'a révélé l'épidémie.
Et notamment avec la question écologique, un changement peut-être de cap en matière d'écologie. On a beaucoup remarqué cette semaine la publication de quelques idées de Nicolas Hulot, par exemple.
Plutôt que d'idées, d'ailleurs, il s'agissait de principes très généraux, là aussi, dont les applications concrètes restent à définir de manière précise. Je crois que c'est une urgence. En réalité, il ne faut pas se tromper, sur ce problème écologique, l'affaire se jugera au niveau européen. Et précisément, ça nous ramène à la question de la Chine, en particulier, que nous évoquions tout à l'heure, où le vrai levier d'un changement écologique à l'échelle européenne, ce serait l'instauration d'une taxe carbone significative aux frontières de l'Union européenne qui changerait la donne, car pour le moment, tant que nous en sommes à être écologistes à l'intérieur de l'Europe, en exportant nos pratiques anti-écologiques à l'extérieur pour les importer ensuite, je crois que nous sommes dans un jeu de faux-semblants qui ne mène nulle part. C'est à cette échéance-là que se jugera le vrai tournant de la crise. Il est possible, je crois que pour une fois, la crise va changer, en effet, à l'échelle européenne, la manière d'aborder le problème.
Alors il y a un principe qui a fait florès ces dernières années, c'était le principe de précaution. Or, l'affaire des masques, des respirateurs ou des tests a montré que l'adage populaire « gouverner, c'est prévoir » avait été, semble-t-il, un peu oublié. Le Monde, toujours lui, a publié cette semaine une enquête passionnante sur la disparition de ces masques. Là aussi, il y a eu des failles et là aussi se pose la question du fonctionnement de l'État et de son administration, pour ne pas dire de sa bureaucratie, non ?
Oui, ça, je crois que pour la France, l'épreuve de vérité de cette crise est terrible et j'espère qu'elle sera suivie d'une vraie reconsidération. Les Français, c'est archi connu et c'est vrai, c'est pas incompatible, sont particulièrement attachés au fonctionnement de leur État. Or, il s'est révélé dans cette affaire profondément dysfonctionnel, tant en amont dans la gestion de la précaution dont vous parliez, qui était, alors on a peut-être la précaution, mais on n'a pas la prévision, ce qui ne veut pas dire grand-chose dès lors. Mais surtout, y compris dans l'exécution, pendant le moment où il fallait prendre des mesures rapides, où en effet, la paralysie bureaucratique, le chaos bureaucratique s'est révélé à tous les étages. Je crois que, par exemple, dans la réinvention dont parlait Emmanuel Macron, cette réinvention de l'État pour le rendre fonctionnel va être une vraie priorité profonde pour la France.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Continuez à nous écrire à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Par exemple, je salue quelques auditeurs qui nous écoutent sur le continent, comme chaque samedi. Bonjour aujourd'hui à Moulefal, qui est professeur de philosophie à Dakar. Un salut à Hassan, qui est lui journaliste à Rabat. Bonjour à Innocent à Garoua, à David à Kinshasa, à Mamadou Madiou à Conakry, à Issouf à Koudougou au Burkina Faso. Un salut également à Augustin à Port-au-Prince et à Jean-Louis qui nous écoute aussi à Haïti.
Sept jours en Afrique.
Partons effectivement pour l'Afrique, Marcel Gaucher, à l'heure également du déconfinement au Rwanda, par exemple, correspondance mardi de Laure Broulard.
Thierry Ndashimiye a remis sa combinaison de travail après plus de 40 jours de confinement. Un soulagement pour ce cordonnier qui fait vivre sa famille avec son salaire journalier.
Nous sommes heureux de revoir des gens dans la rue, de travailler de nouveau et de savoir que notre famille va survivre. Pendant le confinement, il nous arrivait de manger de façon irrégulière et parfois même de se coucher le ventre vide.
À quelques mètres de là, Charles Avugimana assure quant à lui avoir bénéficié de distribution de nourriture de la part du gouvernement. Malgré tout, c'était difficile, dit-il, mais aujourd'hui, son salon de coiffure a ouvert ses portes.
Les clients reviennent petit à petit, parce que tous les gens ne sont pas encore sortis de chez eux. Mais je pense que ça va s'améliorer graduellement.
Au spécial menu, un restaurant du quartier de Niabougogo, les tables ont été espacées et seule la moitié des serveurs a repris le travail. Pour redémarrer les affaires en douceur, Florentine, la gérante, ne sert que des omelettes et des frites.
Je suis très inquiète car la plupart de mes clients sont encore au chômage. La plupart sont retournés chez eux en province, ils me l'ont dit au téléphone. Donc les affaires ne sont pas bonnes, on est très affectés par cette pandémie.
À l'extérieur, un camion à haut-parleur circule pour rappeler l'importance des gestes barrières. Dans les rues, une impression de retour à la normale. Seule différence majeure, tous les passants portent désormais un masque.
Alors au Sénégal, également, on se prépare, pour ne parler que de ce pays, à une reprise d'activité commerciale. Et on désinfecte dans un premier temps à Dakar mercredi, Charlotte Inrac.
La musique d'ambiance résonne dans les couloirs de ce centre commercial du quartier UP des Almadies, mais personne dans les couloirs, sauf des techniciens en combinaison blanche qui s'activent entre le rayon des boîtes de conserve et celui des fruits et légumes. Medoun Dao donne les instructions.
Là, vous avez vu, il y a des aliments, mais notre produit qu'on va utiliser est un produit adéquat, produit coloré. Non, c'est pas dangereux. On a des pulvérisateurs à dos, moteur et manuel.
Les sols, la réserve, les vestiaires, mais aussi les chariots, les caisses et les portes de frigo. L'opération est à la charge du centre commercial. Entre 2000 et 2500 personnes passent ici chaque jour. Bokar Fall, directeur de la galerie Dakar City.
Nous sommes sur une surface de 3000 mètres carrés, donc on peut laisser 150 personnes rentrer. Et après, lorsqu'il y en a qui sortent, on en fait rentrer autant.
Les supermarchés devront fermer tous les lundis de ce mois de mai. Les défenseurs des marchés traditionnels ont accusé les autorités de discrimination en faveur des grandes surfaces autorisées à ouvrir plus. Pour Bokar Fall, il n'y a pas de débat.
C'est des opinions. Nous, on est là pour appliquer ce que la législation décide et ne rentrons pas dans cette polémique-là.
Les professionnels estiment le manque à gagner entre 150 et 200 millions de francs CFA, environ 300 000 euros par jour de fermeture pour toutes les grandes surfaces de la capitale.
Marcel Gaucher, la solidarité entre pays d'Afrique n'est pas un vain mot. Les autorités nigériennes, par exemple, ont réceptionné mardi un lot de Covid Organics, le remède malgache contre le coronavirus à base d'artémisia. Correspondance jeudi de Moussa Kaka à Niamey.
Le Niger vient à son tour de recevoir le Covid organique malgache,
un breuvage à base d'artémisia, comme le confirme le ministre de la Santé publique, le docteur Idi Ilyasou Menassara.
Effectivement, on vient de recevoir du Madagascar un lot de médicaments à base d'artémisia pour la prise en charge d'au moins 900 malades.
Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est guéri du Covid-19 il y a quelques jours. Il apprécie le geste du président malgache, l'honorable Hiro Sani.
C'est une très bonne attitude pour un pays africain de vouloir vraiment aider. Il faut remercier le pays frère qui a eu vraiment cette volonté de venir en aide à notre pays.
Les 900 cures seront-elles directement administrées aux malades? La réponse du ministre de la Santé publique.
Dans le cadre de la gestion du Covid, nous avons un comité scientifique à qui déjà nous avons remis toute la documentation pour nous dire la conduite à tenir. Et à partir de leurs recommandations, on verra ce qu'il va falloir faire.
Aujourd'hui, la tendance est à la baisse avec une moyenne de 2 à 5 cas enregistrés par jour. Moussa Kaka, Niamey RFI.
Avant de vous retrouver, Marcel Gaucher, partons au Mali maintenant, dans la capitale et dans l'intérieur du pays. Les manifestations ont continué cette semaine. Mercredi soir, par exemple, dans plusieurs villes, des pneus ont brûlé. Il y a eu également des affrontements entre groupes de jeunes et forces de l'ordre. Les revendications sont diverses, allant de la contestation des résultats des législatives au ras-le-bol social, en quelque sorte. Correspondant jeudi de Serge Daniel.
Moins de 30 minutes après le début du couvre-feu dans des véhicules pick-up, des forces de sécurité commencent la ronde. Nous sommes dans le quartier Badarabougou de Bamako. Des jeunes, le visage caché, sortent d'une maison, pneus en main, ils barrent la route et mettent le feu. À côté, un agent de sécurité privé qui garde une banque témoigne.
C'est les jeunes, ils sont venus mettre les pneus sur le guidon et ils ont mis le feu. Depuis hier soir, ils sont en train de faire. Moi, je suis tellement peur.
Quelques instants après, en civil, le chef de la brigade spéciale d'intervention débarque sur les lieux. Mais un peu comme si les actions étaient bien coordonnées, dans d'autres quartiers de la capitale, la même scène se reproduit. Le mécontentement après la publication des résultats des dernières législatives a gagné une partie de la localité de Sikasso dans le sud. Foussini Barico, l'un des leaders des manifestants à Sikasso.
Je me trouve au corridor du sud de Sikasso, la route qui mène Bamako. Nous, on a carrément coupé la route ici, des pneus brûlés partout. On a plus de 2000 véhicules stationnés ici, des cars et des minibus.
Il ajoute ce qu'on entend ailleurs, il faut revoir les résultats des dernières élections législatives.
Marcel Gaucher, on l'a constaté tout au long de ce voyage, tout au long de ce magazine, une grande partie du monde, celui qui était confiné jusqu'ici, se prépare vraiment à travailler à nouveau, à essayer de rétablir un semblant de vie économique et un semblant de vie sociale aussi.
La vie sociale est aussi importante que la vie économique et c'est une des découvertes, si on peut appeler ça ainsi, de cette période. Finalement, on sait que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit beaucoup de ses relations avec les autres et pour nous autres, dans le monde où nous sommes, le travail est aussi, et peut-être surtout pour beaucoup, un moyen de relation avec les autres, une façon de se socialiser. Et c'est cette privation-là dont nous avons peut-être le plus souffert au total, en dépit du fait que, en tout cas dans les pays riches comme la France, nous avions à notre disposition tous ces moyens de communication électronique qui ont rendu beaucoup plus praticable cet isolement, ce confinement de chacun chez lui.
Sauf que la peur, Marcel Gaucher, la peur qui s'est instillée, qui est arrivée brutalement au mois de mars, va peut-être avoir du mal à se dissiper chez beaucoup d'entre nous, chez beaucoup de personnes confinées.
Dans un premier temps, oui, la peur règne et c'est un sentiment dont il est très difficile de sortir, surtout face à une menace invisible, inconnue, ça peut être n'importe qui que vous croisez, c'est quelque chose qui du coup est omniprésent et qui habite beaucoup d'esprits, et on le comprend très bien. Mais tout va dépendre, tout va se jouer au fond sur cette hypothèse et sur cette crainte d'une deuxième vague qui serait consécutive au déconfinement. Si elle a lieu, le renforcement de la peur sera très puissant. Si elle n'a pas lieu, je crois que la peur s'effacera petit à petit des rapports sociaux et que nous retrouverons une vie normale, mais une vie qui de toute façon restera durablement marquée par un souci de protection et de prévention beaucoup plus puissant que tout ce que nous avions connu auparavant. Là, quelque chose aura changé dans la mentalité à l'échelle du monde. Et c'est un événement civilisationnel qui montre en même temps combien ce monde est devenu un à sa façon. C'est une épidémie qui nous l'a révélé, mais les suites iront beaucoup au-delà du problème de l'épidémie.
Donc c'est peut-être une autre mondialisation qui va commencer. Vous vous dites à propos des Français qu'il faut qu'ils redeviennent des stratèges, en quelque sorte, de cette mondialisation.
Eh bien oui, la mondialisation, ça ne veut pas dire on se jette dans le bain et on attend que ça marche tout seul, sans observer les conséquences de ce qui se passe. On est bien obligé, je crois, c'est la nouvelle étape de la mondialisation pour chacun des pays, de se redéfinir en profondeur par rapport à la mondialisation et en adoptant donc une attitude de stratège qui réfléchit à ce qu'on peut attendre de la mondialisation, à ce qu'elle demande de protection, à ce qu'elle demande d'organisation pour aussi coopérer mieux avec ses voisins, avec l'ensemble des autres pays du monde. Je crois que l'on est passé d'un âge naïf de la mondialisation où il s'agissait au fond de se fier à la marche un peu automatique du monde, à un âge réfléchi où il va falloir, pour chacune des unités qui composent ce monde, des peuples, des pays, des nations, trouver, c'est vrai de la France mais c'est vrai de tous les autres, trouver la manière de se rapporter au monde et de réfléchir à la fois ses apports et les menaces potentielles qu'il véhicule. C'est un tournant civilisationnel, je pense, qui s'est joué là en profondeur. Il va mettre du temps à s'installer, mais il est joué. Quelque chose, il y a eu un déclic dans l'esprit des populations.
Donc en vous écoutant, Marcel Gauchet, en écoutant l'historien et le philosophe que vous êtes, nous réalisons que nous avons vécu et que nous vivons un événement purement historique. En ce sens qu'il va marquer une rupture.
Oui, il y a une disproportion d'ailleurs entre la réalité sanitaire du problème, qui est réel, c'est beaucoup de morts, mais c'est pas un nombre, ça n'a rien à voir avec les grandes épidémies du passé, ça n'a rien à voir, pour ne pas remonter plus loin, avec la grippe espagnole qui a suivi la guerre de 1914-1918. Donc c'est un événement important sur le plan sanitaire, mais limité. Mais en revanche, les conséquences intellectuelles, politiques, les conséquences dans la manière de penser des personnes à la surface de la Terre, parce que c'est cette universalité du problème qui est aussi une des dimensions fondamentales du problème, vont produire un changement majeur. Je crois que c'est au fond, à l'échelle de l'histoire, ce sera un petit événement dans ses dimensions internes, mais un énorme événement du point de vue de ses conséquences.
Donc on n'a pas fini d'en parler dans le débat, par exemple.
Je crois que nous ne faisons que commencer et que c'est quelque chose qui va prendre des années avant que nous digérions tous les effets de ce qui s'est passé d'une manière quasi instantanée, de façon imprévisible, et sans que nous ayons sur l'instant la mesure de tout ce que nous faisions, concentrés que nous étions sur le simple problème de la survie des populations et de l'organisation de cette survie. Mais maintenant, nous en sommes à tirer les conséquences, et il va falloir des années pour y arriver.
En tout cas, il faut lire la revue Le Débat. Merci Marcel Gauchet.
Merci à vous.
Votre dernier livre s'intitule Robespierre, l'homme qui nous divise le plus. Il est publié chez Gallimard dans la collection des hommes qui ont fait la France. Et je renvoie nos auditeurs au numéro d'idées que nous lui avions consacré sur le site de la radio ou sur votre moteur de recherche préféré. Et puisque nous parlons du magazine Idées, je vous invite à écouter demain un hors-série, un numéro spécial que nous consacrerons à un appel, peut-être fondateur lui aussi, de 50 intellectuels africains intitulé « Pour en sortir ensemble plus fort, comment l'Afrique pourrait se réinventer en quelque sorte après l'épidémie que nous connaissons ». Et nous serons en compagnie de 4 de ses signataires, dont le sociologue Alioun Sall et l'économiste Kako Nubukpo. Demain dimanche, 17h10 heure de Paris, pour tous, une émission qui s'inscrit dans les journées que RFI vous propose sur le monde de demain. Bonne fin ou bon début de semaine. Prenez soin de vous. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.